Bonjour à tous et bienvenue dans Rue des Écoles, l'émission qui anime le débat éducatif le dimanche sur France Culture. Aujourd'hui, échec et réussite dans l'apprentissage de la lecture. Au sommaire de cette émission, également une page d'actualité. C'est Marie-Caroline Missire qui nous en donnera l'essentiel.
Oui, on vous l'annonçait dans Rue des Écoles, mais la Cour des comptes a frappé fort sur le lycée, mais même pas mal.
Et vous avez aussi des infos sur l'évaluation en maternelle, une exclusivité, on l'entendra tout à l'heure. Libby Cousteau pour votre focus.
Oui, le focus aussi sur l'évaluation version Najat Vallaud-Belkacem.
Des choix politiques sont à faire, on vous retrouve vers 17h45. Attachée de production, Laurence Genepin, Alexandra Malka à la réalisation. À la technique, c'est Dophar Guérid. Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr pendant 1000 jours. Et surtout, vous pouvez vous abonner au podcast de Rue des Écoles. Et puis, pour réagir et dialoguer avec nous sur Twitter, n'oubliez pas le hashtag RDE.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Touré.
Voir un enfant déchiffrer ses premiers mots, lire des affiches dans les rues, ouvrir un livre pour s'occuper, prendre son autonomie face au texte, lui laisser un petit mot d'amour sur un post-it ou via un SMS. Voir un enfant, son enfant ou un autre enfant apprendre à lire donc est l'une des plus grandes joies qui soit donnée à un éducateur. Aisé ou laborieux, l'apprentissage de la lecture demeure un peu mystérieux, même si la science, avec Stanislas Dehaene par exemple, nous en dit un peu plus sur le fonctionnement du cerveau. Ce qui se passe dans les classes demeure un peu flou. Ce mystère explique sans doute que les querelles autour des méthodes aient pu être si passionnées par le passé. D'autant que l'apprentissage de la lecture en cours de CP constitue une étape cruciale pour chaque élève et que son succès ou son échec est déterminant pour la suite de toute sa scolarité. De tout récents travaux interrogent l'efficacité pédagogique des professeurs, des méthodes, des manières de faire en classe. Leurs conclusions divergent et se rejoignent. Cela dépend, on va l'entendre, puisque nous avons invité les auteurs de ces deux études. Sandrine Garcia, bonjour.
Bonjour.
Anne-Claudine Oller, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout simplement, vous signez un livre passionnant qui s'intitule « Réapprendre à lire, de la querelle des méthodes à l'action pédagogique ». C'est publié au Seuil et vous êtes sociologue, vous avez plongé vraiment dans l'univers de l'école en restant très longtemps, près de 4 ans je crois, dans des écoles élémentaires. Sandrine Garcia.
Oui, en effet, on a fait une étude, une enquête participante, ce qu'on appelle une recherche participante en sociologie qui nous a permis de travailler, d'abord faire des observations et des interventions auprès des enfants et dans un deuxième temps de proposer en collaboration avec une équipe de maîtres formateurs un dispositif destiné à réduire les inégalités en nous appuyant sur ce que nous avions pu observer la première année.
Anne-Claudine Oller, ça signifie que vous étiez auprès des élèves pour leur apprendre à lire, pour participer à cet apprentissage directement ?
Oui, tout à fait. Alors, pas spécifiquement pour leur apprendre à lire, mais pour participer à la mise en place d'un dispositif d'entraînement, de renforcement de cet apprentissage de la lecture. Et donc, effectivement, nous avons entraîné les élèves à lire, et ce qui nous a permis aussi de saisir une partie du travail quotidien des enseignants. Et c'était très enrichissant pour nous.
Et certaines séances sont racontées dans le livre. Voilà, on voit presque les enfants suivre les syllabes, les lettres avec leurs petits doigts. Roland Guagou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences de l'éducation à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Vous êtes au téléphone. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez dirigé une étude qui s'appelle « Lire et écrire ». On en a eu un premier résumé, déjà assez important, le 25 septembre. C'est un projet de grande ampleur.
Oui, c'est un projet de très grande ampleur puisque nous avons évalué en tête-à-tête individuellement 2500 élèves à 3 reprises, au début du cours préparatoire, à la fin du cours préparatoire et à la fin du cours élémentaire première année. Et puis, nous avons observé les maîtres qui enseignaient la lecture et l'écriture à ces élèves à 3 reprises aussi, une semaine au premier trimestre, une semaine au second trimestre, une semaine au troisième trimestre. Et puis enfin, nous avons fait de très nombreux calculs statistiques pour essayer de mesurer l'influence des pratiques que nous avions observées sur les progrès des élèves.
Nous allons entendre dans un instant ce qui se dégage de ce travail. Mais si vous le voulez bien, nous allons tout de suite écouter les actualités de la semaine. Cours des comptes, budget, évaluation, Sciences Po, une actualité très riche que nous allons décrypter ensemble, Marie-Caroline.
Et oui, je vous le disais tout à l'heure, on va commencer avec la Cour des comptes qui a rendu un rapport très critique sur le lycée. Alors très critique pour la Cour des comptes, c'est presque un pléonasme. Écoutez son président Didier Migaud, interrogé par des journalistes de France 2.
Chaque année, la France dépense 26 milliards pour cette institution. Exemple, avec le coût annuel d'un lycéen, un peu plus de 10 000 euros, soit 25% de plus que la moyenne des pays de l'OCDE.
Le problème, c'est d'en avoir pour son argent. Bon. Que les crédits qu'on consacre à une politique publique nous permettent d'obtenir de bons résultats. On ne peut pas être sur le podium au niveau de la dépense publique et ne pas être sur le podium au niveau des résultats.
En fait, Didier Migaud, qu'on entend ici, est un coquin. L'air de rien, la Cour nous apprend que le coût d'un lycéen français est supérieur de 38% à celui de la moyenne des pays de l'OCDE, qu'une option coûte deux fois plus cher qu'une matière obligatoire, à savoir 1 000 euros, que les établissements privés sont exemplaires en termes d'usage des deniers publics et qu'il faut fermer les petits établissements, enfin qu'il faut réformer le bac avec plus de contrôle continu. En gros, la Cour des comptes, dans un élan totalement subversif, renverse un à un tous les idoles de l'école française, l'enseignement public, l'égal accès de tous à un maximum de choix et d'options, et le bac.
Le bac, justement, cela vous a rappelé votre jeunesse, Marie-Caroline.
Je vous remercie, ou la vôtre, Louise,
en 2005.
Pas de doute, le mouvement lycéen ne manque pas de souffle. Ils ont obtenu qu'on rediscute la réforme du bac, les lycéens s'en prennent maintenant à toute la loi sur l'école, et ils demandent encore plus.
Un budget de 1 milliard d'euros qui sont investis dans les lycées à problème, entre guillemets évidemment, et la création de minimum 5000 postes d'encadrement.
Et même ceux qui préparent les révisions ont séché les cours pour l'occasion.
Sécher les cours et faire plier un ministre, en l'occurrence François Fillon, c'était un extrait du journal télévisé de France 2 en 2005.
Et voilà pourquoi Didier Migaud est un coquin. Il sait très bien, comme nous tous, qu'il peut faire trois fois le même rapport. Le coût du lycée ne risque pas de diminuer, ni le bac d'ailleurs d'être réformé. Parce que le vrai coût d'une telle réforme, il est politique et il est si élevé pour un gouvernement que personne ne s'y risquera, croyez-moi.
Ce qui est amusant à côté de ce débat toujours enflammé sur le lycée, le bac et les options, c'est qu'au même moment, le brevet est lui réformé.
Et dans l'indifférence générale, pas de collégiens dans la rue, pas d'éditorialistes criant à la perte des valeurs de la civilisation, pas de 20 heures de la ministre pour justifier sa réforme. Najat Vallaud-Belkacem a en fait tranché pour ce brevet entre deux tendances qui s'affrontaient depuis des mois. Le contrôle par les compétences, le contrôle continu d'un côté, et de l'autre, une évaluation plus traditionnelle sanctionnée par un examen disciplinaire. À l'arrivée, on a un peu des deux, un contrôle continu qui évalue les 8 compétences définies par ce qu'on appelle le socle commun et 5 épreuves finales, dont un oral sur un projet mené par l'élève.
C'est ce qu'on appelle ménager la chèvre et le chou. Un mot du budget également.
3 choses à retenir pour l'éducation nationale. Un effort important de formation avec 75 millions d'euros. Des créations de postes qui se poursuivent, et c'est un enjeu fort pour le gouvernement. Elles attendront bien 55 000 postes en 2017, 3 499 emplois en plus pour le secondaire et 4 839 pour le primaire.
Et j'ai noté que le plan numérique dont nous parlions la semaine dernière coûtera lui 192 millions d'euros. Et du côté du supérieur, oui.
Du côté du supérieur, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé en début de semaine 100 millions d'euros supplémentaires pour les universités. Un cadeau qui s'est en réalité bien vite dégonflé quand les universités ont compris que ces 100 millions en plus n'étaient que le rétablissement des 100 millions prélevés sur les fonds de roulement, la cagnotte des universités, l'an dernier.
Et Marie-Caroline, vous nous parlez des élèves de maternelle. Ils ne font pas partie de la réforme présentée par Najat Vallaud-Belkacem, que les Bicoustos détaillera en fin d'émission. Mais une évaluation va devenir obligatoire selon un document auquel vous avez eu accès.
Oui, c'est une note de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. Elle annonce que l'évaluation des acquis des élèves en maternelle est obligatoire désormais. Les enseignants devront remplir un document national de synthèse, je vous cite le terme, et des carnets de suivi, autre terme employé par cette direction, carnets qui sont laissés à l'appréciation de chaque enseignant et qui vont remplacer les livrets d'évaluation aujourd'hui en vigueur. Les enseignants pourront, nous précise-t-on, y glisser des dessins, des réalisations, des poésies, des enregistrements, etc.
Bon, une fois de plus, ça se complique. On note également que l'évaluation en maternelle avait provoqué des débats enflammés et de grandes polémiques en 2009. Dernière info, on retourne à le supérieur. Le Front National s'implante à Sciences Po.
Oui, c'est une association FN qui vient d'obtenir le statut d'association reconnue par l'école à l'issue d'une consultation des étudiants avec 120 votes, à savoir le minimum requis pour être reconnu. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça permet à cette association frontiste d'avoir des locaux, un financement sur projet, d'organiser des événements. Mais attention, ce n'est pas une première. C'est Frédéric Millon, le directeur de l'école, qui l'a rappelé dans une interview sur Sciences Po TV. Une association frontiste existait déjà dans les années 90. Frédéric Millon se défend évidemment de tout soutien de cette association, même s'il reconnaît l'importance du pluralisme dans le débat public et notamment à Sciences Po. Ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que c'est surtout une reconnaissance qui a une très forte charge symbolique pour le FN, qui, rappelons-le, a un gros déficit de formation de ses cadres et qui ensuite met un pied dans l'antichambre de la formation des élites. Et ça, en termes de symbole, c'est très fort.
Ben oui, je crois que Najat Vallaud-Belkacem, eh bien, a fait Sciences Po. Et puis, je note que vous regardez Sciences Po TV. Et je rappelle à nos auditeurs qu'on peut vous lire sur edupro.fr et dans L'Étudiant.
Je veux entendre toutes les petites voix. C'est parti.
Apprendre à lire à des élèves de CP n'a pas été une évidence pour cette institutrice. Durant ses 20 années d'enseignement, elle a dû jongler entre la méthode dite syllabique et l'apprentissage de mots dans leur globalité. Et à la fin de chaque année, elle faisait le même constat.
Je travaillais beaucoup, mais j'avais un sentiment d'efficacité nul.
En réalité, un peu moins d'un tiers de ses élèves sortaient de CP sans savoir lire. Pendant 5 ans, ces deux chercheuses ont observé sa classe. Elles ont ainsi pu lui souffler une nouvelle approche pédagogique.
Est-ce que ça fait J?
Première étape, le déchiffrage.
On décortique. Cette lettre peut faire J. Elle fait O, le O fait O. Mais là, ça ne fonctionne pas et on explique très clairement pourquoi.
Et les deux chercheuses, c'est vous, Sandrine Garcia et Anne-Claudine Oller. Et c'est un reportage de Charlotte Casanova qui a été diffusé dans le journal de TF1 la semaine dernière. Alors, le livre est passionnant. C'était intéressant aussi d'entendre une institutrice, comme on disait avant, avec laquelle vous avez travaillé. La première chose qu'on comprend en lisant votre ouvrage, c'est que l'apprentissage de la lecture n'est pas assez explicite, que ce code par lequel on doit commencer, la correspondance entre les lettres et les sons, n'est pas appris en tant que tel, en disant ce qu'on fait et en faisant ce qu'on dit, et qu'il en résulte un certain nombre de confusions. Pour commencer, pour les élèves, Sandrine Garcia.
À vrai dire, c'est pas qu'il n'y a pas d'enseignement systématique du code, et l'enquête qui est dirigée par Roland Guagou le montre aussi. Il y a un enseignement systématique du code, et ceci dès le début du cours préparatoire. Le problème, c'est qu'en même temps qu'il y a un petit travail sur les syllabes, très modeste et insuffisant, on soumet et on expose les élèves à des textes qui sont non déchiffrables pour différentes raisons sur lesquelles on peut peut-être revenir au cours de l'émission. Et ce qui pose problème, ce n'est pas l'apprentissage du code en tant que tel, il est fait, il est explicite, mais c'est plutôt la manière dont on le fait. Et c'est plutôt le fait de faire coexister ces pratiques d'apprentissage systématique qui étaient à l'œuvre dans le cours préparatoire que nous avons observé la première année où nous n'avons pas proposé de dispositif. On fait coexister ça avec la confrontation des élèves à des textes non déchiffrables, qui les mettent en grande difficulté, comme nous l'avons constaté. Ils apprennent réellement à inventer, et on a constaté que quand ils inventent, ils se trompent très souvent, voire toujours.
Alors, pour qu'on se représente bien ce que c'est que d'inventer quand on lit, c'est partir des premières lettres d'un mot, essayer de le deviner. C'est la lecture un petit peu devinette, qui est aussi une méthode de lecture.
Oui, c'est en fait partir des premières syllabes que l'enfant connaît et l'inviter à prendre en compte du contexte du texte pour pouvoir émettre l'hypothèse du mot qu'il doit lire. Par exemple, s'il connaît les syllabes para, eh bien, en fonction du contexte du texte, on l'invite à pouvoir formuler l'idée que c'est écrit parapluie ou parasol ou parapente. Et en fait, on s'est rendu compte par les observations qu'on a pu faire, notamment dans ces ateliers de renforcement, que les élèves n'arrivaient pas à prendre en compte ce contexte et en fait inventaient. Et on créait alors des dispositions à l'invention, à tel point que, par exemple, c'est ce qu'on décrit à un moment donné dans le livre, que l'élève invente tellement qu'il ne regarde plus le texte qu'il doit lire, ne regarde plus les mots.
Non, il vous regarde vous, par exemple.
Il me regarde moi, il lève les yeux au ciel, etc.
Mais je me souviens bien de ce passage. Pour qu'on mesure bien l'importance que ça peut avoir dans les apprentissages et même tous les apprentissages qui vont suivre, ce que vous formulez comme théorie, enfin ce que vous concluez de vos observations, c'est que quand on commence comme ça, on a du mal à réapprendre à lire. Convenablement. Sandrine Garcia.
Après, ça dépend des élèves. Hein. Il existe différentes configurations et là, il faut croiser la question du genre et la question de la classe sociale. On a des élèves, et je crois que c'est souligné également dans l'enquête de Roland Guagou, enfin dirigée par Roland Guagou, des élèves qui apprennent à lire avec tout. Et c'est très genré, c'est plutôt les petites filles et c'est plutôt les petites filles de classe moyenne supérieure. Après, on a d'autres configurations en fonction des classes sociales, en fonction du genre, mais on a souvent plus pour les petits garçons que pour les petites filles, une attention moins grande qui rend plus difficile, je dirais, l'appropriation réussie de ce bricolage où on demande au nom de l'anticipation à deviner un peu, on demande d'apprendre par cœur des mots alors que la mémoire n'est pas toujours à ce moment-là suffisamment construite. Et il y a aussi du déchiffrage explicite. Il y a aussi des syllabes tout à fait appris, connues. Voilà, ça. Et aujourd'hui, dans tous les manuels, hein, je pense.
Bon, on va revenir à cette dimension sociologique, évidemment, dans un deuxième temps. Mais je voudrais écouter aussi Roland Guagou. Vous avez parlé de son étude, donc qui s'appelle « Lire et écrire ». Monsieur Guagou, ce que vous avez aussi conclu... Alors, vous dites que le code est important. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a un gros déficit de compréhension dans l'apprentissage de la lecture et qu'on peut le relever en CP et puis après dans toutes les classes qui suivent, c'est quelque chose que toutes les études soulignent, PISA pour les élèves du collège mais aussi Pearl pour les élèves de CE2.
Alors ça c'est effectivement un des résultats auxquels nous sommes arrivés lorsque nous avons donc évalué très précisément les compétences des élèves et pas seulement dans le domaine des compétences en décodage mais aussi dans les compétences en encodage, en écriture, en leur dictant des mots au début du CP, à la fin du CP, et aussi donc en compréhension, en contrôlant leur compréhension des phrases, leur compréhension du vocabulaire avec des mots isolés, et leur compréhension de récits entendus que nous leur lisions, qui étaient enregistrés sur les ordinateurs de nos étudiants évaluateurs. Et là, nous avons constaté que les carences des élèves était encore bien plus forte dans le domaine de la compréhension que dans les autres domaines à l'entrée au cours préparatoire, que ces difficultés potentielles, celles qui allaient devenir des difficultés, ces différences en tout cas entre les enfants, étaient extrêmement marquées socialement, c'est pas à des sociologues que je vais apprendre ça, et d'autre part que le rôle compensatoire de la pédagogie, l'impact de la pédagogie sur les projets, sur les progrès des élèves dans le domaine de la compréhension, était le plus faible de tous. C'est-à-dire que autant l'école arrive bien à apprendre à déchiffrer et encore mieux à apprendre à écrire, autant, notamment au cours préparatoire, les progrès des élèves en compréhension sont faibles. En tout cas, ils ne compensent pas du tout les inégalités de départ.
Qui ne sont jamais compensés au cours de la scolarité. Et donc, on l'a compris, votre travail est très différent de celui mené par Sandrine Garcia et Anne-Claudine Holler.
Nous avons conduit cette étude pour éviter que le genre de discours que je viens d'entendre continue à inonder les ondes. Nos collègues viennent de dire qu'elles ont vu deux classes et qu'elles décrivent, d'ailleurs très bien, j'ai lu le livre, en montrant comment, dans une classe où on n'enseigne pas de manière assez explicite les correspondances entre les lettres et les sons, les enfants sont, comment dire, désarçonnés et se mettent à jouer à la devinette, ce qui est tout à fait regrettable, et je partage leur avis. Là où je ne partage pas leur avis, c'est quand elles font une montée en généralité. On sait bien que l'enseignement n'est pas assez, un petit travail trop modeste, c'est insuffisant. Mais au nom de quoi disent-elles ça? Après avoir observé une école? Bon, c'est pour arrêter ce genre de généralisation que nous sommes allés voir sur un large échantillon, et pas en généralisant à partir de trois exemples, ce qu'il en était. Alors ce qu'il en est, c'est que oui, les classes qu'elles décrivent dans ce livre, elles existent. On les a identifiées. On peut même les quantifier dans notre échantillon. Et oui, lorsque cet enseignement n'est pas conduit de manière assez rigoureuse, de manière trop aléatoire, alors oui, ça pénalise les élèves. Mais de là à en déduire que l'ensemble des classes de cours préparatoires aujourd'hui fonctionnent comme celles qu'elles décrivent, et fort heureusement pour lesquelles elles ont apporté un certain nombre de remédiations en devenant enseignante à leur tour, alors franchement, non à cette généralisation hâtive.
Maintenant, vous allez quand même répondre sur le fond, sur votre travail, qui est évidemment de dimension plus modeste. On peut ajouter, pour bien que les auditeurs aient tous les éléments en tête, que dans le premier chapitre de ce livre, vous faites une sorte d'histoire des querelles autour de l'apprentissage de la lecture, de comment cet apprentissage a été modifié par l'apport de la linguistique, enfin d'un certain type de linguistique, et porté par un certain nombre d'acteurs, dont Roland Guagou. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je vais en effet répondre, parce que je pense que personne n'a le monopole de la vérité scientifique et que la démarche scientifique est un débat. D'abord, j'ai lu avec intérêt les premiers éléments de conclusion du rapport, enfin le pré-rapport. Je constate que quand même, il y a 30%, et ce sont les chiffres qui sont avancés dans l'enquête quantitative, hein, cette enquête de grande ampleur, 30% quand même d'élèves qui sont en dessous de 20 mots minutes, ce qui les met déjà en situation très critique. Parmi eux, il y a 10% qui lisent, si j'ai bien lu, hein, j'ai peut-être mal déchiffré, moins de 8 mots à la minute, ce qui les met déjà en situation de handicap. Ce qu'on a constaté avec notre étude, peut-être modeste mais approfondie, on a suivi la cohorte pendant 3 ans, les élèves, les enseignants, etc., c'est qu'il y a toujours après une évolution vers ce qu'on peut considérer dans l'institution comme des dyslexies, et même avec des performances bien meilleures, hein, autour de 30 mots minutes en début de CE1, on évolue vers ces situations-là. Alors ensuite, selon les autres caractéristiques de l'élève, s'il y a de l'agitation, selon le milieu social, les résistances des parents, etc., on aura une panoplie de diagnostics, mais la médicalisation est telle aujourd'hui qu'ils sont en situation très critique. Et en ce qui concerne le caractère peu représentatif des deux classes qu'on aurait observées, dans l'enquête de lire-écrire et toujours dans le même pré-rapport, on a constaté quand même que le classement des manuels et du caractère déchiffrable, ce qui est appelé le rendement effectif, qui correspond à ce que fait l'enseignant beaucoup plus qu'à ce que ça pris l'élève.
Alors j'ouvre une parenthèse, il y a différents types de manuels, c'est pas la méthode globale ou la méthode syllabique.
Non, on est d'accord, on est tous d'accord, oui.
Mais on explique quand même aux auditeurs que certains sont plutôt orientés vers commencer à apprendre à lire tout de suite avec des textes un petit peu subtils, en tout cas des histoires avec des mots qu'on ne pourrait pas être en mesure de lire quand on entre en CP, mais des histoires avec du sens. Et puis d'autres axent plus sur la mécanique de la lecture avec des suites de mots qui ne constituent pas des phrases très élaborées. Sandrine Garcia.
On constate que dans les élèves, dans le classement qui est fait, sont très souvent, le plus souvent, confrontés, y compris quand il y a usage des méthodes syllabiques, à du texte non déchiffrable, hein, puisqu'on trouve des proportions de 40%, 60%, etc. Donc s'ils ne font pas de devinettes et qu'ils sont confrontés à des textes non déchiffrables ou en partie déchiffrables, je me demande comment ils vont faire et comment ils vont faire justement pour les déchiffrer s'ils n'ont pas appris tous les éléments. C'est qu'il y a une très grande différence, et en particulier pour les élèves les plus éloignés de la culture scolaire, entre ce que l'enseignant enseigne et ce que l'élève apprend.
Bah, on va passer un petit peu la parole à Roland Guagou pour continuer ce débat. Vous, dans l'enquête Lire et écrire, dont on n'a pas encore reçu toutes les conclusions, ce que vous établissez, donc, c'est qu'il y a un problème de compréhension. Mais qu'est-ce qui se distingue dans les méthodes? Puisque à lire les premières conclusions, on a du mal à comprendre en fait qui sont les enseignants qui réussissent
réussissent ou qui sont les enseignants qui réussissent moins bien, sachant qu'avoir un manuel ou non, par exemple, je prends cet exemple, ne fait pas une grosse différence.
On peut trouver un certain nombre d'invariants, un certain nombre de régularités que on peut associer aux pratiques les plus efficaces. Et ceci devrait réjouir Mme Garcia, parce que de ce point de vue-là, on est bien d'accord. Nous avons aussi identifié des pratiques qui, à l'autre extrémité du spectre, s'avèrent finalement pénalisantes pour les élèves qui, au départ, étaient les plus faibles et qui sont, la plupart du temps, des élèves socialement défavorisés. Donc là-dessus, on a quelques résultats qui sont tout à fait intéressants. Et oui, dans notre enquête, nous identifions des caractéristiques des pratiques pédagogiques les plus efficaces et nous trouvons les caractéristiques des pédagogies qui sont inefficaces au sens où elles fragilisent les apprentissages des élèves qui au début étaient faibles. Et ça, c'est un résultat de recherche important. Nous avons des classes qui enseignent trop peu, de manière trop lente, de manière trop peu explicite, les correspondances, lettres et sons. Ces classes-là, nous les avons identifiées et nous avons vu que lorsque, au début de l'année, dans les premières semaines, il n'y avait pas un travail assez systématique, assez explicite sur cet enseignement, alors les élèves étaient pénalisés. Deuxième résultat de recherche, nous avons constaté que les élèves faibles initialement en code, à qui on faisait vivre des leçons de lecture, sur des supports qui étaient trop peu déchiffrables, et ça va dans le sens de ce que disait Mme Garcia, c'est pour ça que je pointais un élément d'accord sur ce point, alors ces élèves-là s'en trouvaient pénalisés. C'est pour dire que nous avons des résultats qui, de ce point de vue-là, convergent, je pointais simplement un désaccord, sur la photographie catastrophiste du paysage pédagogique français. De l'autre côté, les classes qui favorisent le plus les apprentissages des élèves sont des classes qui ont un certain nombre de caractéristiques voisines. Notamment, ce sont des classes qui accordent beaucoup de temps et d'importance aux activités d'écriture, au sens de l'encodage. Et dans l'encodage, il y a deux grandes familles de tâches, soit les tâches de type dictée de syllabes, dictée de mots, dictée de phrases, et d'autre part, des activités d'encodage où les enfants, j'allais dire, tâtonnent, sont encouragés à essayer par eux-mêmes à écrire du mieux qu'ils le peuvent. Évidemment, ceci est bénéfique parce que ça les met en activité, mais ça n'est pertinent que si le maître est très proche et qu'il y a donc des feedbacks nombreux sur les tentatives enfantines, de manière à apporter des éléments sur les correspondances entre les lettres et les sons qui contribuent à la découverte du code. Puisqu'on est dans le code, je peux vous donner cet autre résultat sur le code, sur le bénéfice de la lecture à haute voix. Et là encore, le fait que certaines classes ne dispensent pas suffisamment de lecture à haute voix par les élèves génère un certain nombre de difficultés. Et un dernier que je voudrais vraiment souligner, parce que celui-là est beaucoup plus inhabituel, inattendu, c'est à la fois l'intérêt d'un travail sur les albums, un travail d'acculturation qui s'avère bénéfique, une fréquentation, un usage de la culture de l'écrit et une réflexion sur la langue, grammaire, vocabulaire. Les classes qui consacrent le plus de temps à des réflexions sur le vocabulaire et sur la grammaire, sans faire de leçons de grammaire, ça ne se fait pas au CP, sont les classes qui font faire le plus de progrès à leurs élèves. Ça, c'est tout à fait important de le pointer.
Donc, déchiffrer, écrire, lire à haute voix et analyser la structure de la langue écrite. On revient vers la sociologie. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui concordent. Ce qui m'a semblé très central aussi dans votre ouvrage et aussi dans les travaux en fait de Roland Guagou et de son équipe, c'est la notion de travail systématique et d'entraînement. Et vous faites une comparaison avec le sport, Anne-Claudine Oller. Oui, effectivement, l'idée c'était véritablement de pouvoir mesurer l'appropriation des apprentissages en lecture et en encodage par les élèves. Et
ce finalement, que vous appelez l'appropriation, c'est être capable de se mettre à lire par soi-même. Enfin, qu'appelez-vous l'appropriation ?
C'est de pouvoir maîtriser complètement les correspondances graphème-phonème quand l'élève est confronté au texte, qu'il ne passe plus du temps à se demander est-ce que telle lettre plus telle lettre forme quel son. C'est véritablement
une
pouvoir arriver à une automatisation, à une lecture fluide, puisque Roland Guagou aussi l'a dit, que la compréhension est liée à la qualité du déchiffrage par une bonne qualité de fluence. Donc ne pas se tromper sur ce qu'on lit et lire suffisamment rapidement pour pouvoir avoir une image mentale des mots, des phrases, des textes qu'on lit. Donc ce travail d'incorporation qu'on a appelé d'incorporation, d'entraînement, effectivement, on a établi une comparaison avec le sport, puisque c'est vrai que c'est un domaine où il apparaît comme allant de soi que pour pouvoir atteindre des performances sportives, il faille s'entraîner. Et pourquoi dans d'autres domaines scolaires, dont la lecture, il n'apparaît pas toujours de soi que pour lire, pour apprendre à lire, il faille s'entraîner au regard de l'acte technique de lire qui est au départ le déchiffrage. Nous ne disons pas qu'il n'est pas important de comprendre les textes. Bien évidemment, il est important que les élèves puissent comprendre les textes qu'ils lisent, mais il est aussi important qu'au départ, qu'ils puissent maîtriser cet acte technique de lire. Et on maîtrise un acte technique, un geste technique par l'entraînement.
Bon, et pour revenir sur une question qui fâche, celle-là, sur les supports. Alors, vous parlez d'un certain nombre de leurres pédagogiques. Mmh. Et selon vous, Sandrine Garcia et Anne-Claudine Oller, le fait d'utiliser la littérature jeunesse de manière trop systématique et un peu prématurée dans l'apprentissage de la lecture est un leurre. Pourquoi ?
C'est pas un leurre en tant que tel. Je pense qu'il faut différencier les supports. Je pense que Roland Guagou a parlé de l'intérêt de la lecture à voix haute. C'est aussi ce qu'on a constaté et qu'on a pratiqué. Comment le faire quand les textes sont indéchiffrables techniquement? C'est quand même compliqué, me semble-t-il. Donc, l'idée, ce qu'on a montré, c'est que des supports en partie et fortement généralisés, non déchiffrables, posent un problème technique d'entraînement qui se fait effectivement largement par la lecture à voix haute. Et donc vraiment notre travail a montré que ce qui était important c'était de faire ce travail de lecture à voix haute qui peut aller de pair, et moi j'irais plutôt dans ce sens-là, avec un travail sur des albums à côté par des lectures qui seraient des lectures entendues par l'enfant, en tout cas tant que l'enfant ne maîtrise pas complètement le déchiffrage. Parce que vraiment ce qui pose problème me semble-t-il, c'est qu'on confronte au nom de la compréhension et de l'histoire antérieure, finalement des textes au nom de la compréhension où on demande aux élèves, où on attend d'eux dans les supports de deviner, et ils peuvent pas deviner, déchiffrer en même temps, ils se trompent et du coup ils peuvent pas faire l'entraînement non plus. Donc du coup moi j'aurais tendance à penser, à faire l'hypothèse, à vérifier maintenant de nouveau, à explorer plus avant, que le plus efficace serait d'entraîner sur des textes entièrement déchiffrables les enfants pour acquérir le plus vite possible le décodage, la maîtrise du décodage, l'encodage aussi, comme on l'a dit, par l'écriture, etc. Et que parallèlement, de manière symétrique, cette compréhension fine dont on fait à raison tant de cas pourrait très bien travailler sur des albums, mais qui partiraient des histoires lues par l'adulte avec aussi un dispositif d'évaluation analogue à celui qu'on a mis en place.
Sans prendre du temps, voilà, sur cette fameuse activité encodage-décodage, voilà, mais aussi on parle un petit peu
parce qu'il y a aussi la question du temps, en effet.
Oui, c'est vrai. Question du temps que vous soulevez dans l'ouvrage. Ce qui m'a intéressé également, c'est le traitement de la difficulté. Donc, on a dit médicalisé à part, des élèves qu'on va, vous le dites, mettre dans des cases et enfermer dans la difficulté scolaire. Enfin, c'est comme ça que vous l'écrivez, en refusant de traiter un peu à manière sportive, en les entraînant plus longuement de la même manière qu'on le fait en classe.
Oui, dans le livre qu'on a écrit toutes les deux, hein, je le rappelle, on a vraiment développé, à partir de la théorie de l'habitus, on s'est vraiment appuyé sur le fait que certains enfants, l'enseignement qui est prodigué en classe est inégalement profitable aux enfants, et que du coup, à partir des performances France des élèves les moins avancés, on gagnait à dispenser un entraînement encore plus systématique avec ces élèves, mais qui ne serait ni de la médicalisation ni de la psychologisation. Simplement, il y a des élèves qui, de par leur disposition sociale, sous l'effet de ces dispositions sociales, ont besoin de faire plus de la même chose pour arriver au même résultat que les autres. Il y a un effet de rattrapage. Et on a mesuré, alors c'est peut-être très modeste, ça n'est pas moins scientifique pour autant, c'est de la sociologie, donc voilà, ce ne sont pas du tout les mêmes paradigmes. Et on a vraiment mesuré qu'on avait un effet, on a utilisé un modèle pour le généraliser, et on peut d'ailleurs utiliser...
Vous allez plus loin, on a réduit les
inégalités.
Dans le livre, vous dites que vous vous opposez à une idéologie professionnelle qui, pour transformer un enfant en élève, ce qui est le projet de l'école en France, dirait qu'il faut éviter de le faire travailler davantage scolairement. Vous avez écrit que souvent, face à la difficulté scolaire, eh bien, tout simplement, l'école renonce.
Bah, il y a un certain nombre de dispositifs qui consistent à psychologiser ou médicaliser. Donc, c'est un peu différent, mais ça a des effets proches. C'est l'évitement du scolaire. Donc, psychologiser, c'est qu'on va faire référence à des déviances familiales qui pourraient bloquer psychologiquement l'enfant et l'empêcher d'apprendre à lire. Alors que on peut essayer de le débloquer psychologiquement par ailleurs, mais aussi l'entraîner en même temps. C'est comme ça qu'il va progresser. Et la médicalisation, bah, c'est très simple, hein. La dyslexie, c'est une mesure... ça repose sur des outils très proche que ceux qu'on a utilisés, donc les erreurs et la vitesse d'un texte lu par minute. À partir du moment où il y a trop d'erreurs et où ça va trop lentement, on a une évolution vers exactement les mêmes symptômes que la dyslexie. Et là, on a observé, mais d'autres travaux les observent également, une lutte des acteurs pour expliquer aux parents que les élèves relèvent du champ du handicap.
Les acteurs, ce sont les enseignants.
Voilà, excusez-moi, c'est mon jargon sociologique.
Marie-Caroline Missire a une question.
Ce qui me frappe beaucoup en vous écoutant et en entendant la réaction de Roland Guagou, c'est que, en gros, vous êtes, d'un point de vue moins spécifique qu'est le nôtre, sur une même démarche, à savoir faire une étude pour savoir qu'est-ce qui marche en termes de lecture, en essayant de désidéologiser le propos. Mais c'est incroyable de vous entendre vous opposer à ce point. On a l'impression que finalement, que la question des méthodes de lecture et même de se pencher scientifiquement sur cette question d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue sciences de l'éducation, on est en train d'aborder des tabous, quoi, de franchir des interdits. Est-ce que dans votre travail, vous avez eu l'impression qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas dire ou des choses qui allaient faire polémique? Moi, je suis très surprise du ton assez polémique que prend votre discussion avec Roland Guagou.
On s'aperçoit en tout cas que ça pose problème de le faire, puisqu'on nous dénie la qualité de scientifique alors que nous-mêmes nous reconnaissons l'intérêt des autres études. Donc on voit bien que effectivement ça soulève encore des passions, mais effectivement l'objectif c'est scientifiquement de faire, d'essayer d'apporter des éléments pour faire progresser.
Roland Guagou, vous en plus le projet de cette étude, c'est aussi de fournir un travail scientifique d'ampleur pour que il n'y ait plus tellement de polémiques, pour qu'on ait des faits sur lesquels faire reposer sa réflexion.
Je ne sais pas s'il y a des professeurs des écoles qui écoutent France Culture le dimanche à 5h, mais lorsqu'ils vont entendre que l'école renonce à faire travailler les élèves, à les entraîner quand il y a des difficultés, je pense que ça va leur faire dresser les poils sur les bras. Donc oui, je m'élève contre ces discours très globalisants et très faux. Elle a écrit dans son livre que le CP, c'était la classe de l'encodage et du décodage, et que la question de la compréhension, ça viendrait après, quand on aurait réglé le décodage et l'encodage. C'est un point de désaccord fort, et pour le nourrir, il nous faut des données scientifiques et pas des croyances. Voilà pourquoi on polémique. On polémique parce qu'on est désaccord sur un certain nombre de points, et notamment sur la description de l'état de l'école. Ce système de dénonciation permanente ne correspond pas à ce que nous observons sur des grandes échelles.
Ce qui est quand même vrai, sans aller plutôt dans un sens que dans l'autre, c'est que le niveau en lecture semble s'être dégradé. Plusieurs études le montrent, des études scientifiques, des études françaises et européennes. Donc ça, c'est quand même un constat qui est fort. Donc on doit bien remettre en cause les pratiques des professionnels aussi. On est bien obligé d'en passer par là. On ne peut pas dire que tout se passe bien à l'école non plus, sans accuser les enseignants et parents.
Mais justement, c'est sur l'interprétation de ça qu'on n'est pas d'accord. Sur le constat, on est d'accord. Mais aujourd'hui, on sait que la grande période de cette, remise en cause de l'enseignement du déchiffrage, elle est datée tout à fait bien dans le livre de Sandrine Garcia, dans les années 75-80, puis après un grand boom, et en gros, il faut attendre 92-93.
Anne-Claudine Oller est la co-auteure de ce livre.
Pardon, Sandrine Garcia et Anne-Claudine Oller. Elles ont raison, au passage, elles oublient complètement que celui qui a le plus solidement établi la nocivité des approches idéovisuelles, c'est moi. Et c'est pas en 2000, c'est en 1993, ma thèse de doctorat. Donc il faut remettre les faits en place. Et elles ne comprennent pas qu'on peut conduire de front une pédagogie sur le code, qui soit explicite, et un enseignement qui accorde notamment au vocabulaire une importance très forte. Et si elle faisait de la sociologie de manière sérieuse, elle verrait bien que la question du vocabulaire, qui n'apparaît jamais dans ce bouquin, est une question centrale sur les questions de compréhension. Comment est-ce qu'on peut passer tout son temps à faire du déchiffrage sur des mots connus s'il n'y a pas dans le même temps un travail pédagogique sur le vocabulaire et l'enrichissement de ce vocabulaire pour des enfants qui en manquent cruellement ? Alors on peut se moquer de Bentolila, mais sur ce point-là, il a raison.
Alors Bentolila, c'est un linguiste qui avait préconisé d'apprendre des listes de mots pour accroître le vocabulaire des élèves.
Très mauvaise idée, les listes. Bien sûr que ces mots nouveaux, c'est à travers les textes et notamment la littérature de jeunesse que les enfants vont les rencontrer. Donc les listes, non, mais la focalisation sur le vocabulaire, oui. C'est fondamental, le vocabulaire, elle le passe sous silence. C'est une erreur, il faut le dire.
Bon, une erreur à vos yeux. Une histoire aussi de l'apprentissage de la lecture qui m'a beaucoup intéressée. Ce que vous avez relevé, c'est que cet apprentissage est devenu plus sophistiqué avec le temps. Et vous allez, dans votre conclusion, Anne-Claudine Oller et Sandrine Garcia, jusqu'à soulever une énorme question. Vous dites, voilà, depuis qu'on a essayé d'homogénéiser cet apprentissage, qu'on a mis en place les UFM, le niveau baisse pour l'apprentissage de la lecture des élèves de l'école élémentaire. Comment arrivez-vous à ces conclusions ?
Bon, on ne l'a pas dit comme ça exactement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a essayé de montrer et de mettre, on a mis le doigt sur ce qu'on a appelé une intellectualisation des dispositifs d'apprentissage, qui a consisté, par exemple, à dévaloriser des techniques hautement efficaces, comme la lecture à voix haute en cours d'apprentissage, au nom effectivement de conceptions scolastiques, les fonctions du langage, donc lire à voix haute, ça ne correspond pas, les vrais textes, etc. Et on a effectivement disqualifié, ce faisant, des pratiques qui étaient extrêmement efficaces pour l'apprentissage. Et on a, à l'inverse, mis en place des démarches qui étaient extrêmement handicapantes pour les élèves, comme la confrontation au nom des hypothèses sur un texte, etc., à des textes non déchiffrables. Alors la question de la compréhension, elle pose, et c'est dans ce sens-là que vous nous avez... Enfin, c'est la question que vous nous avez posée, la question des supports. Nous, on ne dit pas du tout qu'il ne faut pas lire d'histoire, pas faire d'albums, etc. Simplement, ce qu'on dit, c'est que c'est une forme de compréhension qui est dissociée de l'apprentissage de la lecture. Peut-être qu'à un moment, en fin de CP, lorsque l'apprentissage du décodage a été fait de manière parfaite, quand c'est le cas, ça peut être articulé. Mais en tout cas, ce qu'on préconise vraiment, c'est d'arrêter de soumettre les élèves à des textes qui ne soient pas entièrement ou quasi entièrement déchiffrables, et que le reste, et y compris le vocabulaire, c'est une très bonne idée, doit être fait à côté, mais pas sur le même support. Et on rejoint tout à fait Roland Guagou dans ce sens-là. Je vois pas.
Il vous rejoint un peu plus modestement, on l'a entendu. Deuxième partie de la question, pourquoi cette évolution dans l'apprentissage de la lecture? Vous livrez à une explication dans le livre. Si on a cessé d'apprendre de manière mécanique, je résume à grands traits, à apprendre à lire aux enfants, c'est parce que un apprentissage plus sophistiqué était plus valorisant pour les enseignants.
Oui, c'est toute la période aussi de la linguistique, où la linguistique était une discipline phare, et un certain nombre d'acteurs, de formateurs, mais c'est lié aussi à leurs conditions de propre professionnalisation dans les écoles normales et ensuite dans les IUFM, Instituts de Formation des Maîtres, finalement ont eu intérêt à porter des croyances qui étaient extrêmement finalement, qui n'ont pas bénéficié autant qu'on pensait à la formation des enseignants. Et il y a eu effectivement des véritables tabous. Nous, on l'a vu sur le terrain, ça a été c'est très difficile de faire cette enquête. Dès lors qu'on parle d'enseignement systématique du code, même si on admet que par ailleurs c'est une chose profitable, souhaitable de lire des histoires à côté et surtout pas sur le même support, on voit à quel point c'est difficile. Ça reste un sujet tabou de défendre l'idée qu'il faut soumettre les élèves à des textes entièrement, enfin exposer les élèves à des textes entièrement déchiffrables. On est soupçonné d'être partisan de méthodes syllabiques, alors que même le terme me gêne. C'est de l'enseignement explicite. Mais même cet enseignement explicite, selon nous, ne suffit pas. Nous, vraiment, ce qu'on a mis en place, c'est un dispositif qui articulait plusieurs dimensions, hein, dont cet entraînement sur lequel on a mis l'accent tout à l'heure avec le travail d'incorporation réalisé sur des élèves les moins avantagés culturellement, en intégrant effectivement à la fois le résultat scolaire, la connaissance que nous avions des propriétés sociales, parce qu'on a cherché aussi...
Alors, on ne pourra pas tout dire, mais évidemment, les professeurs des écoles et tous ceux que le sujet intéresse peuvent lire ce livre, voilà, qui présente votre vision, mais qui fait beaucoup réfléchir. Roland Guagou, on pourra lire aussi votre étude. Dernière question. Qu'en attendez-vous en termes d'évolution de la pédagogie de la lecture et peut-être de diffusion des bonnes pratiques ?
En formation ?
Oui, en formation.
Trois directions. Les alertes, attention, certains maîtres passent à côté de choses très importantes. Deuxièmement, valoriser ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, des pratiques qui existent, qui sont massives, mais qu'il faut pouvoir nommer plus clairement. Et enfin, rééquilibrer différentes facettes de l'apprentissage et ne pas considérer que c'est du temps volé à la lecture que de travailler sur la compréhension de textes lorsqu'on lit les textes aux enfants et qu'on n'attend pas la fin du CP pour ça, c'est une erreur. Je voulais juste rajouter un point, c'est que moi je partage l'importance de l'entraînement et de l'exercice. Évidemment, ça me paraît une chose fondamentale, mais il ne faut pas l'opposer à l'intelligence de cette activité. Découvrir comment fonctionne le code, les correspondances entre les lettres et les sons, c'est une activité très jubilante, très active, très intelligente et qui passionne les enfants. Oui. Donc arrêtons de penser que le code c'est quelque chose d'ennuyeux. Non. Pensons que comme l'étude de la langue, l'accord, un ami, une amie, tiens on rajoute un E, voilà des découvertes que font les enfants. Ce sont des découvertes comme celles qu'on va leur faire construire sur la compréhension des textes en disant « Ah, le loup dit ça, mais que pense-t-il » Et lorsqu'on est dans cette réflexion sur ce que ne dit pas le texte, mais que pense un personnage, alors oui, on est dans une pédagogie de l'intelligence, dans une pédagogie de la compréhension sur l'implicite des textes, et c'est évidemment à la portée même des enfants des milieux populaires, et c'est même nécessaire qu'on y travaille à l'école maternelle, et qu'on continue au CP, et qu'on n'attende pas le cours moyen pour se mettre à raisonner sur les problèmes de compréhension de textes.
Mais ce sera la conclusion de ce débat. Je vous remercie beaucoup, Roland Guagou, mais restez avec nous pour écouter la chronique Le Focus de Libby Cousteau. Cette semaine, Libby, vous dénoncez l'absence de courage politique de la ministre sur la question de l'évaluation. Najat Vallaud-Belkacem venait présenter sa réforme mercredi matin sur RMC au micro de Jean-Jacques Bourdin, particulièrement passionné par le sujet.
Chaque trimestre, les enfants auront des bulletins que vous connaissez aujourd'hui, qui sont relativement clairs.
Oui.
Tous les trois ans, puisque désormais la scolarité fonctionne par cycle, je le rappelle, c'est la nouveauté que nous introduisons, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas seulement année par année la progression de l'élève, mais on regarde
sur
tous les trois ans. Tous les trois ans, en plus de ces bulletins trimestriels qu'ils ont eus, ils auront en effet une évaluation de fin de cycle. Qu'est-ce que cette évaluation de fin de cycle ? C'est une évaluation qui va permettre de positionner l'élève pas simplement sur des disciplines et par rapport au niveau de sa classe, mais aussi sur la progression qui doit être la sienne pour obtenir à l'âge de 16 ans ce qu'on appelle le socle commun de connaissances, compétences et cultures. C'est-à-dire qu'on considère que tous les élèves doivent, à la fin de leur scolarité obligatoire, atteindre un niveau qui est à un niveau minimal, qui est un niveau ambitieux, exigeant, qui est un niveau qui leur permettra de se projeter dans leur vie future.
Et donc,
pour atteindre ce socle à la fin de leur scolarité obligatoire, il faut qu'ils progressent tout au long de la scolarité. Donc tous les 3 ans, d'une certaine façon, on va faire un check-up, si vous voulez, en plus des bulletins trimestriels et annuels par discipline, on va faire un check-up sur les compétences que l'élève a réussi à obtenir ou pas.
Et qui l'amène vers l'obtention de ce socle. Je termine la phrase de la ministre.
Et oui, la ministre qui est débarrassée. Hop là ! Notre choix a été de laisser la liberté pédagogique aux équipes, a martelé Najat Vallaud-Belkacem ces jours derniers. Elle a retenu la leçon de la réforme du collège. Pas de décision sur l'évaluation égale, pas d'hystérie collective. Les bulletins de primaire seront donc, comme c'est le cas dans 80% des écoles, sans notes. Mais, car il y a un mais, les enseignants qui le souhaitent pourront imprimer une deuxième page de bulletin avec des notes. Au collège, pour ne fâcher personne, il y aura donc un bulletin avec des notes, comme aujourd'hui, côté pile et côté face. Et c'est une nouveauté tout de même, l'évaluation du fameux socle de compétences et de connaissances.
Et la Libye, vous êtes drôlement déçue.
Un peu, Louise. Prudence, frilosité, lâcheté, aveu d'impuissance. Je ne sais pas trop comment il faut qualifier cette décision, mais cette annonce est déconcertante. Songez qu'il y a eu près d'un an de concertation sur le sujet avec une conférence nationale sur l'évaluation lancée en grande pompe le 24 juin 2014. Le jury, composé de professeurs, d'inspecteurs, de parents d'élèves, avait préconisé l'abandon pur et simple des notes jusqu'en sixième. Mais Najat Vallaud-Belkacem a mis les conclusions du jury à la poubelle.
Et vous y voyez un véritable gâchis.
Un énorme gâchis. Tout d'abord, comme le rappelait Étienne Klein, le président de ce jury, parce qu'une multitude de pratiques très différentes coexistent sans qu'un bilan global n'en soit jamais fait. Ensuite, parce que les effets d'une évaluation peuvent avoir de lourdes et durables conséquences dans le rapport que chacun entretient avec lui-même, avec les autres, avec les savoirs et la culture en général. Mais c'est surtout un gros gâchis, car l'évaluation aujourd'hui telle qu'elle est pratiquée, et cela faisait, semble-t-il, consensus, est indigente.
Indigente, c'est-à-dire ?
Indigente, car elle se résume souvent à une note accompagnée d'un très bref commentaire, parfois même d'un seul mot, et tout cela manque cruellement de sens pour les élèves, comme pour leurs parents d'ailleurs. À ce propos, je me souviens de l'explication ubuesque de cette professeure de français d'un grand lycée parisien du 16e arrondissement qui m'avait expliqué ceci. Alors accrochez-vous, il faut suivre. Si je veux qu'un élève obtienne 17 au bac, et si la copie qu'il me rend en vaut 15, je lui mets 13 pour souligner ses erreurs et le forcer à se corriger. Les élèves connaissent ce principe. Et puis, avait-elle ajouté, tout le monde sait qu'un 13 ici vaut un 15 ailleurs. On nage dans l'absurde.
Vous seriez donc pour la suppression des notes, Libby ?
Non. Et mon propos n'est pas de mettre une pièce dans la machine idéologique et dogmatique du débat inepte du pour ou contre les notes. Il faut des notes. Et il faut des commentaires étayés, abondants, systématiques pour aider les élèves à progresser. Non, je veux parler en réalité du courage politique qui manque désespérément dans ce ministère. Manque de courage qui désespère, justement. Car il ne suffit pas de pointer les vrais sujets, faire les bons diagnostics pour faire bouger les choses. Encore faut-il oser. Une vision, une priorité, une ambition. Mais ça, ça sera pour une autre fois. Gouverner, c'est choisir.
Ouais, moi, je conclurai également sur l'absence d'évaluation que soulevait Étienne Klein concernant les pratiques de notation. Et oui, le courage nécessaire d'avoir une vision éclairée. Mais on sait qu'en matière d'éducation, il est très difficile de communiquer sur le terrain. Alors, merci à tous. On a entendu beaucoup de débats cette semaine. La semaine prochaine, nous parlerons des questions de genre à l'école et des initiatives de terrain pour lutter contre les stéréotypes. Bien loin des querelles concernant les ABCD de l'égalité. Et dans quelques secondes, vous retrouvez Le Monde selon Gilles Kepel avec Olivia Gesbert. Bonne soirée sur France Culture.